1, 2, 1, voilà. Là, je force pas ma voix. Alors aujourd'hui, le thème, c'est devant la croix, se reconnaître aimé et pécheur. Donc nous allons aller du signe de la croix jusqu'au Kyrie. On s'est arrêté l'autre fois sur le baiser de l'autel. Donc, vous savez, quand on a parlé du baiser de l'autel, il y avait l'idée de cette purification des lèvres. Je vous avais dit, dans l'ancien rituel, il y avait une formule qui était associée à la purification des lèvres. Et tout de suite, vous voyez, comme si on allait expliquer ce qui nous purifie les lèvres, c'est la croix du Seigneur. Donc, nous faisons ce signe de la croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le nom dans la Bible, ça veut dire la présence de Dieu. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. On ne veut pas forcément dire le nom de Dieu, parce qu'un juif ne dit pas le nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est Yahvé, vous savez, le tétragramme. Il ne va pas le prononcer, parce que c'est trop sacré. Il va remplacer le nom, justement, par le nom. Dieu par le nom. Que ton nom... Alors, il va dire le Saint. Toi, le Saint d'Israël. Toi, le Seigneur des armées. Alors, on remplace le mot de Dieu, par le nom même. Voilà. Voilà. Alors, vous voyez, en fait, faut quand même réaliser ce qui se passe. C'est que dans ce signe de la croix, nous confessons deux choses. Confesser, ça veut dire. Professer, confesser, dire. On confesse quoi? À la fois la Trinité et la rédemption. On vient dire en un geste deux réalités ensemble, le mystère de la Trinité et le mystère de la rédemption. Et ceci, on l'applique sur notre corps. Alors j'aime bien ce que disait le curé d'Ars, je ne vous l'ai pas mis, mais il disait « il faut faire le signe de la croix avec un grand respect ». On commence par la tête. C'est le chef, la création, le Père. Ensuite, le cœur, l'amour, la vie, la rédemption, le Fils. Le cœur, l'amour, la vie, la rédemption, le Fils. Et les épaules, la force, le Saint-Esprit. Il y a plusieurs manières de comprendre ce signe de la croix. C'est vrai, on commence par la tête. Donc la tête, c'est le Père, l'origine, la création. Vous savez qu'on va dire que le Père, il est créateur. On va dire que le Fils, il est rédempteur. Il nous sauve, le Fils. Et l'Esprit, il est sanctificateur. J'essaye là de vous introduire dans le mystère de la Trinité, avec ce signe de la croix. La croix qui est comme la visibilité de cette vie à l'intérieur de la Trinité. Tu veux savoir ce qui se passe à l'intérieur de la Trinité? Tu veux savoir comment les uns et les autres se donnent? Eh bien, regarde la croix. La croix, c'est comme une fenêtre. Si je veux comprendre comment Dieu s'aime en lui-même, eh bien, je regarde le crucifix. Du coup, la croix n'est pas simplement... l'offrande de Jésus, et puis le Père, il est très loin. Non, non, on est en train de te dire que la croix est comme la visibilité de cet amour de Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. D'une certaine manière, le Père aussi est impliqué dans le salut. Voilà, et l'Esprit Saint aussi est impliqué. Le Père, c'est donc le Créateur, le Fils, le Rédempteur, celui qui nous sauve, l'Esprit, le Sanctificateur. Bien sûr que le Père aussi nous sauve, il est aussi rédempteur, mais on va associer plus, ça s'appelle l'appropriation, on associe davantage un aspect du mystère de salut à l'une ou l'autre personne de la Trinité. Le Père, il nous a créés, voilà. Rappelez-vous, au commencement, le Père, il crée, Bon, mais voyez, dans l'Ancien Testament, on voit pas beaucoup le Fils. On parle pas de Jésus dans l'Ancien Testament. Donc c'est plutôt le Père, voyez, qui crée le monde. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Vraiment, l'Ancien Testament, c'est vraiment le Père qui est dévoilé. Bon. En même temps, même si on ne prononce pas tellement nos noms de Père dans l'Ancien Testament, en fait. Hein. Bon. Ensuite, à un moment donné, le Fils, en fait, va nous sauver. Hein. Le Père nous a donné ce monde, nous ne l'avons pas accueilli suffisamment, enfin comme il fallait, et donc le Fils va assumer la misère de l'homme. C'est lui le Rédempteur. Hein. C'est pour ça qu'il descend tout en bas. Hein. Au nom du Père, le Père qui est tout en haut du ciel, et le Fils, je descends. Hein. Le Fils est celui qui est descendu. Hein. Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'anéantit. En mettant ma main en bas, au plus bas, eh bien, je signifie cette descente. Et l'Esprit Saint, il sanctifie, c'est-à-dire, bon, ben, le Fils m'a sauvé, mais il faut encore, comment dire, que ce salut, que cette vie de Jésus, eh bien, comment dire, s'actualise dans ma vie, il faut qu'elle se réalise dans ma vie. Hein, c'est ça l'esprit. L'esprit, il achève tout. Il achève toute sanctification. Il va vous rappeler ce que je vous ai dit, dit Jésus. Il continue l'œuvre. Il la continue, l'Esprit Saint, cette œuvre. En fait, il rend présent la croix. Voilà. Ben, on le voit à la messe. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire? On va imposer les mains sur le pain, le vin. On va demander à l'Esprit Saint que cet Esprit Saint, eh bien, fasse de ses offrandes, eh bien, le corps du Seigneur, c'est-à-dire que l'Esprit Saint permette au pain, au vin, de devenir le corps de Jésus, le corps offert, le corps sur la croix. Alors, j'aime bien Jean-Jacques Collier, je ne vous ai pas mis ce texte-là, mais enfin. Où il dit à un moment donné dans un texte, c'est pour cela que quand le prêtre ou les autres font le signe de la croix, disant ces paroles et du Saint-Esprit, ils tirent la main d'une extrémité du corps à l'autre. Pourquoi? Eh bien, parce que nous avons le même esprit de Jésus. Hein, vous savez, cette parole de Saint Paul, Romains 5, 5, l'amour de Dieu a été répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Et donc, d'accord, le Père qui est origine, le Fils qui m'a sauvé, qui est descendu en bas, et puis, et du Saint-Esprit, je tire, donc, de la main gauche, voilà, vers la droite, et sur ce chemin de la gauche vers la droite, eh bien, il y a mon cœur. Et mon cœur, nous dit Saint Paul en Romains 5, 5, c'est le lieu de l'Esprit Saint. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Voilà. Oui? Ah, là, les orthodoxes, le signe de la croix dans le sens inverse. Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, enfin, en tout cas, la symbolique reste la même. C'est pas, voilà. Même si on fait en sens inverse, c'est pas trop trop gênant. Je vous propose qu'on prenne le texte numéro 1. Le texte du cardinal Ratzinger, il était pas pape à l'époque. Hein. Le signe de croix est une profession d'espérance. Je crois en celui qui, dans sa faiblesse, est le Tout-Puissant, en celui qui, dans son absence et son impuissance apparente, peut et va me sauver. En nous signant, nous nous mettons sous la protection de la croix. Nous la portons tel un bouclier qui nous abrite dans nos tribulations quotidiennes et nous transmet sa force. Le signe de croix désigne aussi le chemin à suivre. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même et prenne sa croix et qu'il me suive. La croix nous montre la voie de la vie, l'imitation du Christ. Nous relions le signe de croix à la profession de foi dans le Dieu Trine. C'est un rappel du baptême, rendu encore plus manifeste lorsqu'il est accompagné d'eau bénite. La croix est signe de la passion en même temps que signe de résurrection. Elle est en quelque sorte la perche salvatrice que Dieu nous tend, le pont grâce auquel nous pouvons traverser l'abîme de la mort et surmonter toutes les menaces pour parvenir jusqu'à lui. La croix est présente lors du baptême qui nous fait mourir avec le Christ pour ressusciter avec lui. Chaque fois que nous faisons le signe de croix, nous adhérons à nouveau à la foi de notre baptême. Du haut de la croix, le Christ nous attire en quelque sorte à lui, dans la communion avec le Dieu vivant. Car le baptême, avec le signe de croix, qui en quelque sorte le résume et l'actualise, est avant tout un sacrement trinitaire. Il redit ce que je viens de dire là. Le signe de la croix nous rappelle notre baptême, l'actualise, le rend présent. Nous prenons conscience que nous avons été sauvés dans la croix. Et ceci, c'est un sacrement trinitaire. Donc, la croix est une porte, comme si le voile se déchirait. C'est ça qui s'est passé d'ailleurs, au moment de la croix du Christ, le voile s'est déchiré du temple. Et nous avons accès au Dieu Trinité. Par la croix, j'ai accès à la Trinité. Sur la croix, Jésus dit « Quoi, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Il révèle l'Esprit Saint, de son cœur coulent des fleuves d'eau vive. Voilà, donc le mystère de la Trinité est là. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Père, mon esprit et le Fils sur la croix. Je termine le texte. Le Saint-Esprit nous conduit au Christ qui nous ouvre la porte vers le Père. Dieu n'est plus le Dieu inconnu, il a un nom. Nous pouvons l'appeler comme il nous appelle. Le signe de croix, accompagné de l'invocation trinitaire, concentre l'essence du christianisme. Voilà, je trouvais que c'était bien ce texte parce qu'il résume tout ce que je viens de vous dire. Il a une certaine autorité puisque c'est quand même le cardinal Ratzinger, préfet de la congrégation de la doctrine de la foi. Donc, vous voyez, ce signe de la croix, c'est vraiment un signe de victoire. Alors, peut-être trois conséquences pour notre vie. La première, c'est que on fait ce signe de la croix sur notre corps. J'ai envie de dire que, vous voyez, le corps, les gestes, c'est peut-être l'aspect concret. Notre vie, notre profession de foi, nous avons dit des choses sur Dieu, mais il faut que ça soit concret. Il faut que ça se réalise dans ta vie. Et donc, faire le signe de la croix sur notre corps, c'est dire que notre corps et toute notre vie doit être à l'image de la croix. Il faut passer de la foi confessée à la foi vécue, réalisée, concrète. Dans l'évangélisation, la parole enseigne, mais l'exemple entraîne. D'accord ? Dans l'évangélisation, la parole enseigne, mais l'exemple entraîne. Ce qui veut dire qu'il faut avoir une cohérence entre ce que nous pensons, ce que nous croyons et ce que nous vivons. Vous voyez, c'est peut-être ça, ce signe de la croix. C'est, dans la liturgie, il y a peu de gestes, qui sont en lien, où la parole, plutôt le geste, est en lien avec la parole. Vous voyez, on est en train de nous dire, ton corps, c'est toute ta vie, doit être marqué du signe de la croix, doit réaliser la croix, doit être la visibilité de la croix. Il y a une cohérence entre ce que je dis et ce que je suis. Vous voyez, c'est la personne de Provence qui dit « Oh, vous savez, quand j'entends monsieur le curé en chair, je suis impressionné. Mais quand je le vois vivre, je suis rassuré. » Voilà. En Provence, il y a beaucoup de cigales, mais il n'y a pas beaucoup de fourmis. Donc, c'est bien une vie convertie qui convertit les autres. Ce qui veut dire que peut-être qu'on peut appliquer, vous voyez, la croix à toute notre vie, en disant, Seigneur, voilà, viens convertir mon intelligence à travers ce geste. Je pense au Père, mais je peux penser aussi à mon intelligence, mes idées, ma pensée. Ensuite, viens convertir mon ventre, mon appétit. Voilà, donne-moi de gérer cet appétit. Et puis, les bras, c'est plutôt le symbole des énergies, hein, de l'agir. Eh bien, que toutes mes actions, mes énergies, eh bien, soient habitées par toi. Voilà, ça c'est la première chose, cette cohérence de vie entre ce que je pense et ce que je suis, ce que je vis. La deuxième chose, en faisant ce signe de la croix, je demande à être disciple du Christ. Je reviens pas, c'est ce que dit le cardinal Ratzinger, hein. Le signe de la croix désigne aussi le chemin à suivre. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même et qu'il prenne sa croix. Voilà. Je décide d'être disciple du Christ. Deuxième chose. La troisième chose, c'est peut-être d'accepter d'aimer selon la mode, le mode de la Trinité. En fait, nous confessons un Dieu trinitaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous disons que nous sommes à l'image de Dieu, d'accord, bon, mais que du coup, l'exemple de l'amour, c'est l'exemple de la Trinité. Si tu veux apprendre à aimer, eh bien, il te faut connaître la Trinité. Dans la Trinité, tu as l'exemple parfait de l'amour. Alors, je prends le texte numéro 2 qui explique cela. Donc, c'est toujours des textes un peu modernes parce que j'aime bien. Enfin, des fois, je mets le catéchisme aussi, quand même. Chacune des personnes de la Trinité existe pour les deux autres et procède d'elles. Leurs noms ne les séparent pas les unes des autres, mais montrent que le Dieu trine est relation pure. Le Père ne s'appelle ainsi qu'en raison du Fils, et le Fils en raison du Père. Vous êtes d'accord? Hein? L'Esprit Saint est l'amour qui les unit. Pour Dieu, être, c'est être en relation. Nous venons à l'Église avec nos identités fragiles, souvent construites en opposition les unes contre les autres. Nous y venons en individus qui fondent parfois leur sens du moi sur la compétition, la lutte pour affirmer sa supériorité ou le combat contre son sens d'infériorité. Même dans nos amours, il peut y avoir des blocages, des réticences et de la jalousie. Invoquer le Dieu trine en commençant, c'est invoquer la demeure où nous pouvons nous épanouir et trouver le bonheur, libéré du besoin de nous battre pour affirmer notre identité et justifier notre existence, à l'aise dans l'amour non compétitif et égal du Père et du Fils, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Est-ce qu'il y a une suite? Non. Voyez donc. Là, le père Timothy Ratcliffe, sur un livre qui s'appelle Pourquoi aller à l'église, dit en fait, d'abord, être, c'est être en relation. Voilà. Vous voyez, quand dans nos célébrations, on a fait ça aux messes de début d'année, on a dit aux gens, écoutez, vous pourriez peut-être, nous pourrions nous saluer mutuellement. C'est-à-dire, on a expliqué la Trinité. On a dit, voilà, enfin, on l'a pas dit, mais c'est ça que ça voulait dire. On fait le signe de la croix, donc on est en train de confesser un Dieu qui est en relation. Donc, si on confesse un Dieu qui est en relation, que nous sommes à l'image de Dieu, nous sommes en relation, ben, c'est peut-être bien qu'on soit en relation réellement. Voilà. Donc, on va se saluer. Voilà. C'était ça, en fait. Et donc, on demande, en fait, voilà, d'être dans cette communion, enfin voilà, d'être dans la paix les uns avec les autres, à l'image de la Trinité, où chaque personne, en fait, est totalement tournée vers l'autre. Hein, le Père, il est totalement tourné vers le Fils. Le Fils est totalement tourné vers le Père. Il n'y a aucun lieu gardé pour soi. Maurice Zindel disait, le Père n'est pas dans l'avoir, il est dans l'être pur. Totalement donné. Voyez, il n'est pas là à garder des choses pour lui. Bon. Donc ça, c'est très très beau. Hein. Voilà. En fait, la Trinité nous dit ce que ça veut dire. En fait, aimer, c'est s'offrir. En fait, l'idée, c'est qu'à la fin de la messe, on soit un petit peu comme le Père, le Fils et l'Esprit Saint, dans une offrande totale vers l'autre. Bon. Voyez, c'est ça. Enfin, c'est le but de notre vie. Et voilà. Bon, d'être à l'image de la Trinité. J'avance. Alors, vous avez un très beau texte de Maurice Zindel que je ne vais pas lire et que vous lirez vous-même. C'est le texte numéro 3 qui résume tout ça de manière extraordinaire. Et après, une fois que nous avons fait signe de la croix, nous disons Amen. Bon, ça veut dire tout ce que je viens d'expliquer, on est d'accord. On est d'accord. Donc, on a entendu la première profession de foi, le premier credo. Le premier credo, c'est nous croyons au Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Premier credo. Tu es d'accord ou pas? Ouais, je suis d'accord. Tu veux vivre comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans une désappropriation, dans l'offrande de toi-même, dans une relation pure à l'autre, arrêter un esprit de compétition, etc. Vivre quelque chose du royaume du ciel sur la terre. Tu veux tout ça? Oui? Bon, alors, disons Amen ensemble. C'est formidable si on réalisait tout ce qu'on pense, enfin bon, tout ce qu'on dit au peuple. Voilà. Alors, sur le Amen, vous pouvez relire le catéchisme, le numéro 1061 à 1065. Voilà. Qui vous donneront les clés de ce Amen. Amen, Amen, je vous le dis. Hein, ça, c'est les paroles qu'on entend dans l'Évangile. Amen, Amen, je vous le dis. Ou en vérité, je vous le dis. Ça veut dire quoi? C'est sûr, c'est fiable, on peut s'appuyer, c'est important, c'est certain, c'est du roc. Le mot Amen en hébreu se rattache à la même racine que le mot croire. Et c'est une racine qui exprime la fiabilité, l'adhésion. Voilà, Amen, hein, c'est la première réponse de l'épouse. Hein, je vous avais dit, la messe est un dialogue entre l'époux et l'épouse. Hein, l'époux vient de dire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et je réponds Amen. Voilà, l'épouse a répondu, a dit oui. L'époux nous a dit qu'il était Père, Fils et Saint-Esprit, et nous le croyons. Et ensuite, il nous dit quoi? Il nous dit le Seigneur soit avec vous, et nous répondons, et avec votre esprit. Voilà, deuxième dialogue de l'époux et de l'épouse. Donc, je m'intéresse maintenant à ce qu'on appelle la première bénédiction. Hein? Oui.
Peut-être, enfin, sur la façon de faire le signe de croix. Il y a une petite catéchèse l'autre jour, je crois que c'était dans la famille chrétienne. Peut-être que tu peux en parler. Enfin, croix honteuse, croix glorieuse. Et j'ai bien aimé cette façon. Et cet article qui disait, je ne sais plus où, mais attention, quand nous faisons le signe de croix, par exemple, en entrant dans une église, et on n'a pas à être peut-être honteux et à faire
Ah oui.
le mini du signe de croix.
Mais je lirai peut-être si on a le temps un petit texte là-dessus, sur le faire un beau signe de croix. Vous savez qu'à Lourdes, la Vierge apprend en fait à Bernadette à faire le signe de croix, à l'île Bouchard aussi. Voilà. Donc, en effet, oui, c'est pas un chasse-mouche, oui, c'est sûr. Bon. Alors, vous voyez, on va entendre la première bénédiction. Alors, vous avez plusieurs formules. Les premières bénédictions, c'est soit le Seigneur soit avec vous, soit la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Soit, une autre formule qui est moins connue, que je ne dis pas, que je devrais dire, que Dieu notre Père et Jésus-Christ, notre Seigneur, vous donnent la grâce et la paix. Et là, on répond, béni soit Dieu, maintenant et toujours. Et la formule de l'évêque, la paix soit avec vous. Formule réservée à l'évêque. Bon. Alors, je vais reprendre chacune des formules, mais vous voyez en quelque sorte, le prêtre, vous voyez, en ouvrant les bras, va comme mimer d'une certaine manière le signe de la croix. Hein. Qu'est-ce que c'est que la croix, sinon l'offrande? Hein, l'offrande du Christ. Et du coup, voilà, le prêtre ouvre les bras. Il y a cette vie qui a été professée aussi, voilà, avec cet autel, la présence du Christ, les reliques, le prêtre a embrassé, il signifie le Christ au milieu de nous. Et du coup, ben, il est comme là à donner, à offrir cette présence du Christ au milieu de nous à tous. Je vous lis ce que dit Jean-Jacques Ollier. Le prêtre ouvre les bras lorsqu'il dit le Seigneur soit avec vous. Parce qu'il désire que le Saint-Esprit qu'il lui souhaite soit dilaté et répandu sur tous en plénitude. Voilà la signification de ses mains ouvertes au peuple. Hein, comme s'il y avait un premier don d'Esprit Saint. Alors, c'est très fort pour la salutation de l'évêque, hein, puisque la salutation de l'évêque, la paix soit avec vous, reprend la parole de Jésus au soir de la résurrection. Il leur dit quoi? Première parole de Jésus, une fois que le Christ est ressuscité, il leur reproche rien, il leur dit pas « vous m'avez abandonné, vous êtes voilà terrible, etc. » Aucun reproche, il apparaît, il leur montre ses plaies, il leur dit « la paix soit avec vous » et il souffla sur eux en leur disant « recevez l'Esprit Saint ». Hein? Comme si, vous voyez, cette première salutation est comme déjà un premier don de la paix. Et cette paix, ce don de l'Esprit Saint, il est donné grâce à quoi? Grâce aux plaies. Hein? Voilà. Hein? Il ne leur fait pas de reproches, mais il leur montre ses plaies quand même. Hein? Pour dire, voilà, cette paix que je vous donne, elle m'a coûté un clou dans la main droite, un clou dans la main gauche, un clou dans les pieds, un clou dans le cœur. Voilà. Cette paix, elle est le fruit de mon corps. Et donc, je vous le montre, je vous ouvre les bras pour vous dire d'où vient cette paix. La formule, donc je m'intéresse à chacune des formules. La première formule, le Seigneur soit avec vous, c'est à la fois un souhait et une certitude. C'est-à-dire un souhait que le Seigneur soit avec vous, voilà, qu'il soit là, bon. Mais c'est surtout une certitude, le Seigneur est avec vous, il est là. Prenez conscience, vous avez été rassemblés grâce au prêtre en fait. Hein. Le prêtre est venu dans l'assemblée, donc vous n'êtes pas, vous n'êtes pas un amas de personnes comme ça qui ne savent pas très bien. Non, non. Quand l'évêque est là, l'Église est là, le Christ est là. Hein. Là où est l'Église, là est le Christ. Et donc, au milieu de vous, eh bien, se tient le Seigneur que vous ignoriez, pour reprendre la parole à Jacob. Le Seigneur était là, je ne le savais pas. Vous êtes avec le Christ. Vous êtes le Christ. Vous êtes le corps du Christ. Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux, hein, dit Matthieu 18. Donc, quand le prêtre dit « Le Seigneur est avec vous », eh bien, je réalise, voilà, de la présence du Christ au milieu de nous. C'est très beau parce que la messe commence et termine de la même manière. Elle commence par le signe de croix, elle finit par le signe de croix. Elle commence par le baiser de l'autel, elle finit par le baiser de l'autel. Elle commence par cette première bénédiction, elle terminera par la même bénédiction. À la fin, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc on a comme, au début et à la fin de la messe, eh bien, une grande inclusion, voilà, pour nous dire que tout ce qui va se passer au milieu de la messe est là, pourquoi? Pour que le Seigneur nous soit donné, pour qu'il soit avec nous. Et il est avec nous parce que nous offrons le sacrifice, parce que nous lisons les lectures, parce que nous faisons le baiser de paix, etc. Tout ça, c'est quoi? C'est la présence du Christ au milieu de nous qui est réalisée. Alors quand je regarde cette formule, je dis, la messe termine de la même manière avec cette bénédiction, la Bible aussi commence et termine de la même manière. Quand Dieu se présente, en Exode 3,14, il se présente au peuple comment? En disant « Je suis celui qui est avec vous. Je suis celui qui suis. » Exode 3,14. « Je suis au milieu de vous. » Cette formule en hébreu dit en fait « Je suis celui qui suis » parce que Dieu, Moïse demande le nom. « Quel est ton nom? C'est quoi ton nom ?» Et en fait, alors on peut dire, c'est comme si Dieu dit « Écoutez, vous me demandez mon nom, je suis qui je suis. » Voilà. Écoutez, mon nom, vous ne le saurez pas, je suis qui je suis. Bon. Mais ça peut être aussi pris comme une autre formule qui dit, parce que le temps des verbes, en fait, il y a plusieurs possibilités, c'est je suis celui qui serait. Je suis celui qui vais être. C'est-à-dire je suis celui qui va te montrer qui je suis par mes gestes. Tu veux savoir qui je suis? Tu vas me voir. Tu vas me voir quand je vais te faire sortir d'Égypte. Tu vas me voir quand je vais te donner la manne. À travers ce que je serai, tu vas comprendre qui je suis. Voilà, je suis qui je serai. Je suis qui je suis. Voilà, souvent c'est les gestes et les œuvres des personnes qui disent l'identité de la personne. Je suis avec toi. La Bible, elle commence voilà avec ça d'une certaine manière et elle termine avec l'Évangile. Les dernières paroles du Christ, c'est quoi? Je suis au milieu de vous jusqu'à la fin des temps. Le Seigneur est avec vous, il est avec vous jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28. chapitre 28. Voilà. Hein. Alors, cette formule, donc, on trouve dans la Bible à plusieurs reprises avec Marie. Hein, réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Marie prend conscience que le Seigneur est avec toi. Donc, on fait mémoire un peu de tous ces passages où Dieu a dit à son peuple qu'il était avec nous. Et cette parole, quand je regarde dans la Bible de près, je la trouve à plusieurs reprises. Je vous ai dit en Exode 3,14 ou 3,12, en Exode 18,19, en Deutéronome 20, verset 1, Exode 3,12, 18,19, Deutéronome 20. À chaque fois, cette parole est liée à une mission. Je prends par exemple Deutéronome 20. Lorsque tu partiras en guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux, des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu n'en auras pas peur, car le Seigneur ton Dieu est avec toi, lui qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Hein? Le peuple hébreu, il aime pas trop les chars, les chevaux et tout. Là, oh là, ça fait peur. Hein? Mais t'inquiète pas, tu vas partir en guerre. Hein? Deutéronome, le peuple, il est là. Il est en terre promise, mais dans la terre, il y a beaucoup d'ennemis. Mais t'inquiète pas, je serai avec toi. Pareil pour Marie. Hein. Le Seigneur lui dit, le Seigneur est avec toi, mais en même temps, elle a une mission. Hein, une mission d'être la mère du Sauveur, etc. Bon, voilà. Donc à chaque fois, quand on a ce mot dans la Bible, Moïse, c'est pareil. Hein. Je suis celui qui suis, je suis celui qui est avec toi, et je te donne une mission. La mission, c'est quoi? De sortir le peuple d'Égypte. Ah, mais comment je vais faire? Je ne sais pas parler et tout. T'inquiète pas, on va t'envoyer à Aaron, il n'y a pas de souci. Bon. Donc je prends conscience, vous voyez, que Dieu, au début de la messe, que le Seigneur est avec moi et qu'en même temps, il me donne une mission. Ça, il faut bien comprendre ça. Dès qu'il y a un don de Dieu, il y a une mission. Et dès qu'il y a une mission, il y a un don. Alors, l'exemple, c'est la confirmation, hein. Hein, tu reçois le don du Saint-Esprit, mais ce don, il est pour une mission. Hein, tu as une mission à être témoin, mais cette mission suppose que tu aies reçu quelque chose. Prenez le mariage, pareil. Hein. Le mariage, tu as reçu le sacrement de mariage, c'est-à-dire Dieu est avec vous, votre couple, mais vous avez une mission, en particulier quand les deux sont baptisés. Hein. Parce que, voilà, quand les deux sont baptisés, ben, vous avez la mission de rendre présent le Christ au milieu du monde, par votre fidélité, comme Dieu est fidèle. Éphésiens 5. Voilà. D'accord? Sur ce, le Seigneur soit avec vous. Et alors, deuxième formule, la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Là, voyez, peut-être qu'on explique davantage le signe de la croix. Avec cette formule, cette seconde formule qui, en fait, développe le mystère trinitaire, c'est une formule qu'on trouve chez saint Paul en 2 Corinthiens 13, 13. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Alors, voyez, on commence par le Christ, c'est étonnant, hein, on commence pas par le Père. En fait, c'est le Christ qui nous a révélé le Père. Et le Père et le Fils, ensemble, nous donnent l'Esprit Saint. Vous savez que l'Esprit Saint, il procède du Père et du Fils. Je commence par le Fils, qui me révèle le Père, et le Fils et le Père, ensemble, me donnent l'Esprit Saint. Voilà. Voilà. Ensuite, la troisième formule, que Dieu notre Père et Jésus notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. En fait, ça résume tout le plan du salut, hein. Que Dieu notre Père et Jésus nous donnent quoi? La grâce et la paix. Alors, il y a le Père, il y a Jésus. Et la grâce et la paix, ben, c'est peut-être l'Esprit Saint qui est là, nommé. Dans notre vie, tout commence par la grâce, hein. Nous sommes, nous sommes chrétiens grâce à l'Esprit Saint, c'est la grâce de Dieu. Et cette grâce de Dieu, cet Esprit Saint en nous, il va nous conduire à la paix. Le but de la vie, c'est la paix, en fait. Hein. Bon. Entre dans la paix. Bon. La joie et la lumière, comme on dit dans l'oraison pour les défunts, dans la première prière eucharistique. Qu'ils entrent dans ta joie, dans la paix et la lumière. Alors, Maintenant, je m'intéresse à la quatrième formule, non, troisième, non, quatrième. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Donc ça, c'est vraiment la première parole de Jésus à la résurrection. Comme je vous l'ai dit, là encore, cette paix est liée à une mission, puisque tout de suite, il leur dit, remettez les péchés. Hein. Ceux à qui vous remettrez les péchés leur seront remis. Pourquoi cette parole est réservée à l'évêque? Bonne question. Eh bien, parce que c'est le seul, en fait, qui a entendu cette salutation. Ceux qui ont entendu cette formule, la paix soit avec vous, ce sont les évêques. Ce sont les apôtres, au soir de la résurrection. Qui y a au soir de la résurrection? Il y a les apôtres dans le Cénacle qui entendent cette parole. Donc elle est réservée à l'évêque. Et puis l'évêque, c'est celui qui, en quelque sorte, fait la paix dans son diocèse. Hein. C'est lui qui est le gardien de l'unité. Voilà, c'est une parole d'une certaine manière performative, c'est-à-dire qu'elle dit ce qu'elle fait. Vous savez, dans la liturgie, toutes les paroles, eh bien, sont des paroles efficaces. Alors, le lieu le plus parlant, c'est bien sûr quand on redonne l'institution de l'Eucharistie, c'est-à-dire les paroles pour revivre le miracle de la messe, hein, où là, je vais dire une parole, et cette parole, elle va être tellement forte qu'elle va produire le corps du Seigneur. Mais ce que je peux dire pour l'Eucharistie, le moment central de la messe, je peux le dire aussi pour chacune des paroles. Hein. Quand l'évêque nous dit la paix soit avec vous, c'est déjà un premier don de l'Esprit-Saint qui nous est fait à nous. Et nous répondons, et avec votre esprit. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, eh bien, que vous soyez avec l'Esprit Saint que vous avez reçu lors de votre ordination sacerdotale. Que Jésus vienne à vous durant cette célébration. Rappelez-vous, Paul, que vous avez reçu l'Esprit Saint lorsque vous avez été ordonné prêtre. Ne soyez pas stupide de croire que vous pouvez célébrer l'Eucharistie seul. Vous célébrez l'Eucharistie parce que l'Esprit Saint vous habite par votre ordination. Donc prenez conscience, vous aussi, qui êtes à l'autel, Père Paul, que vous avez l'Esprit Saint, cet esprit particulier qui vous permet d'être le Christ au milieu de nous. D'une certaine manière, vous qui êtes à l'autel, faites mémoire du sacrement que vous avez reçu. Hein? Vous n'êtes pas n'importe qui, au sens, ne nous faites pas votre show. Vous n'êtes pas un animateur, vous n'êtes pas, je sais pas trop, hein, vous avez reçu un sacrement. Prenez conscience, hein, de ce que vous êtes là. Hein. Bon, ne donnez pas moins que ce que vous êtes. Oui.
Ça s'adresse qu'aux prêtres, alors.
Oui. Et avec votre esprit, ça s'adresse qu'aux prêtres, oui.
Moi, je pensais que la formule qui allait le mieux, moi qui m'interpelle le plus, c'était avec son esprit, que l'esprit du Seigneur soit avec moi.
Ben, je dis, le Seigneur est avec vous, donc ça je vous le dis. Il est avec vous, et vous me dites, et il est aussi avec vous d'une autre manière, et avec votre esprit. Donc, on a tous l'esprit, on a tous le Seigneur, mais vous êtes un peuple sacerdotal, vous êtes prêtre, mais avec le sacerdoce baptismal, hein, ce qu'on a vu la dernière fois, et moi j'ai le sacerdoce ministériel qui est à votre service. Donc, je suis à votre service. Donc, prends conscience que tu es à notre service, et que, voilà, tu dois nous donner Dieu et pas autre chose. Bon. Du coup, vous voyez, on n'est pas, c'est pas un bonjour. On n'est pas en train de se dire bonjour là, parce qu'il y a des gens après, des prêtres qui après disent bonjour. Enfin, attends, celui qui salue, c'est le Christ. La salutation, le bonjour du Christ, le Christ, quand il dit bonjour, il dit shalom. Il dit la paix. La paix soit avec vous. Voilà. Je vous donne pas moins que la paix du Christ. Bah, je vous souhaitais un bon jour, hein, que le jour soit bon, c'est pas mal, mais on est à un autre niveau là. Hein, on donne Dieu, on se donne Dieu les uns aux autres. Bon. Bon. Et on est en train de dire, plus que ça, on est en train de dire qu'il y a une alliance entre nous. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Ça veut dire, souviens-toi que Dieu a fait alliance avec toi. Il a fait alliance avec toi qui es prêtre, il a fait alliance avec toi aussi, hein, qui es baptisé. Hein, je suis celui qui est avec vous, ça veut dire j'ai fait alliance avec vous. Bon. Du coup, vous voyez, le prêtre n'a pas à dire « le Seigneur soit avec nous ». Vous avez peut-être entendu ça, ça peut arriver. Vous voyez, le prêtre qui veut être convivial et proche des gens, il va dire « le Seigneur soit avec nous ». Soit avec nous, au sens, il ne veut pas dire vous, parce que voilà. Ou alors des fois, vous avez des prêtres qui disent que Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Non, non, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Voilà, c'est vous. Pourquoi ? Attends, réalise, tu veux être copain. Attends, mais sois copain, mais tu es le Christ. Donc, tu rends présent le Christ. Donc, tu donnes le Christ aux autres. C'est pour ça que tu dis que le Seigneur soit avec vous. De temps en temps, le prêtre se met avec le peuple. Préparons-nous au moment de célébrer le sacrifice. Et reconnaissons que nous sommes pécheurs. Là, le prêtre, voyez, tout d'un coup, il est plus en face de nous. Tout d'un coup, il se met avec nous, il reconnaît qu'il est pécheur. Là, c'est curieux, il agit une persona Christi, mais il agit aussi plutôt, il est avec le peuple. Vous voyez, parce que le prêtre, le Christ, il n'est pas pécheur. Donc dans ce moment-là, vous voyez, d'une certaine manière, le prêtre ne rend pas présent le Christ pécheur, parce que le Christ n'est pas pécheur. Hein, il se met avec le peuple, il prend conscience que lui aussi, tout en étant prêtre, il a besoin du pardon. Alors, je trouve ça très beau, vous voyez, si j'avais à prêcher une retraite, par exemple, sur la messe, je dirais, écoutez, prenons conscience que le Seigneur est avec nous et que nous n'avons pas à avoir peur. Je dis ça parce que nous sommes parfois beaucoup dans la peur. Les gens ont peur, tout le monde a peur, je ne sais pas pourquoi. Les gens sont inquiets, ils sont inquiets de ce qui va leur arriver, ils sont inquiets de ce qui leur est arrivé dans le passé, hein. Il m'est arrivé, j'ai fait tel péché, j'ai eu tel passé, ma vie, je ne peux plus être heureux, etc. Hein, ma vie à l'heure actuelle est conditionnée par ce passé, ou alors dans le présent. Hein, souvent on est là, et puis on a tel ou tel événement, et on se dit, mais voilà, en fait, ces événements, ils ne me permettent pas d'être heureux, parce qu'il m'arrive telle ou telle chose. Et je suis toujours par rapport aux événements, hein, comme Marc Boutet, vous voyez, à ne jamais intégrer la réalité, mais à toujours l'esquiver. Je suis jamais content, voilà. Je suis là, mais je voudrais être ailleurs. Il m'arrive ça. Et puis le futur, c'est pareil. Hein. Mais qu'est-ce qui va m'arriver demain? En fait, aujourd'hui, ça va plus ou moins bien, mais en même temps, je suis en fait déjà angoissé parce que il est possible qu'il m'arrive ça et que ça réussisse pas, etc. Donc, je suis en train de souffrir de choses imaginaires. Et donc, ma vie est faite comme ça, d'une non-acceptation du présent. Et du coup, de cette parole, vous voyez, le Seigneur est avec toi, en fait, non, il n'est pas avec moi du tout. Je dis non. Alors que le Seigneur nous dit, mais si, je suis avec vous. Et c'est pour ça que je vous ai donné quelques textes du catéchisme. Donc le texte numéro 4. Je pense que ça pourrait être bien que vous relisiez le texte 4, 5 chez vous. Mais où l'Église parle beaucoup, enfin le catéchisme, de la providence de Dieu. Hein? Le témoignage de l'Écriture est unanime. La sollicitude de la divine providence est concrète et immédiate. Elle prend soin de tout. Des moindres petites choses jusqu'aux grands événements du monde et de l'histoire. Dieu prend soin de tout. Alors, à un moment donné, il y a la question du mal. On se dit, mais attendez, si Dieu prend soin de tout, moi, il m'arrive telle ou telle chose. Bon. Et alors, du coup, le catéchisme fait pas l'impasse et il parle en effet du mal. Alors, je vous lis un petit peu le truc en gras, là, en bas de la page. Car le Dieu Tout-Puissant, puisqu'il est souverainement bon, ne laisserait jamais un mal quelconque exister dans ses œuvres, s'il n'était assez puissant et bon pour faire sortir le bien du mal lui-même. Bon, il faut que vous preniez le temps de lire ça, plutôt chez vous, c'est idiot que je fasse la lecture de tout. Mais reprenez ces textes-là. Voilà, il y a comme une parole hein, que nous dit l'Église, c'est que Dieu en fait s'occupe de nous et que ce qui nous arrive n'est pas forcément voulu par Dieu, mais les choses sont voulues par Dieu, puis les choses ne sont pas voulues, Mais Dieu, de ce qui n'est pas voulu, peut en tirer un bien. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu est un pro du recyclage. Voilà, il recycle. Donc il y a quelque chose. Alors le grand recyclage, ça a été la croix. La croix, c'était vraiment le truc, c'est l'abomination de la désolation. Parce que la croix, ça veut dire pour un juif que tu es maudit de Dieu. Alors, vous imaginez, pour être reconnu comme l'envoyé de Dieu, dans la Bible, on nous dit que quelqu'un qui est crucifié, il est maudit de Dieu. C'est repris d'ailleurs dans l'Épître aux Galates. Donc Dieu se sert d'un contre-signe pour que ce soit le signe de son amour. Donc faut voir. Donc là, il va très très loin, quoi. Voilà. C'est ce que dit saint Paul dans la première aux Corinthiens. Ce qu'il y a de fou dans le monde, ce qu'il y a de faible, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les sages. Voilà, je préfère au lieu de... Voilà, c'est pas un cours sur la providence, mais peut-être reprenez ces numéros du catéchisme lentement et pour voilà, avoir cette certitude que nous n'avons pas à avoir peur. La seule chose dont nous avons à avoir peur, c'est eh bien de comment dire de nous éloigner de lui par le péché. Et c'est pour ça que tout de suite nous allons nous reconnaître pécheurs. Voilà, belle transition. En fait, avant de nous reconnaître pécheurs, nous avons un petit mot d'introduction. Vous savez, le prêtre va dire, ben voilà, tiens, nous fêtons aujourd'hui la présentation de Jésus-Marie au temple, voilà, où nous célébrons cette messe pour, nous le disons pas, nous, forcément, au début de messe, mais dans certaines paroisses, ça se dit, nous célébrons la messe pour un tel, qui est défunt. C'est pas une seconde homélie, ou une première homélie que nous faisons là, mais ça permet un petit peu d'humaniser la prière et de la relier à ce qu'on vient de, à ce qu'on vit en ce moment. Et tout de suite, après, eh bien, nous confessons notre péché. Hein? Ben, c'est assez logique. Hein? Mon but, c'est à chaque fois de vous montrer comment les parties de la messe s'enchaînent les unes avec les autres. Hein? D'accord? Qu'est-ce qu'on a fait au début de la messe? On a été saisi par le Seigneur au milieu de nous, à travers la présence de l'autel que j'ai embrassé. On a fait le signe de la croix. Donc on a pris conscience que Dieu était cet amour, qui est un amour Père, Fils et Saint-Esprit dévoilé dans la Trinité. On a pris conscience que Dieu nous avait sauvés par la croix. On a pris conscience qu'il était au milieu de nous. Hein? Que cette présence était permanente. On a pris conscience que nous étions le Christ, à travers notre sacerdoce baptismal, qu'il y avait le sacerdoce ministériel. Donc tout ça nous fait prendre conscience que Dieu est là. Et quand Dieu est là dans la Bible, tout de suite, eh bien, on se reconnaît pécheur. Vous l'avez à plusieurs reprises, je prends deux épisodes. L'épisode de la vocation d'Isaïe, chapitre 6 du livre d'Isaïe. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône grandiose et surélevé. Sa traîne emplissait le sanctuaire. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ayant chacun six ailes. Bon, ensuite on décrit les ailes et tout ça. Ils se criaient l'un à l'autre ces paroles, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur !» Sa gloire emplit toute la terre. Les montants des portes vibrèrent au bruit de ses cris et le temple était plein de fumée. Alors je dis, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au sein d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur. » L'un des séraphins vola vers moi, tenant dans sa main une braise qu'il avait prise avec des pinces sur l'autel. Il m'en toucha la bouche et dit, « Voici, ceci a touché tes lèvres, ta faute est effacée, ton péché est pardonné. » Alors j'entendis la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui ira pour nous ?» Et je dis, « Me voici, envoie-moi. » Vous avez les éléments que je viens de développer. Prise de conscience, le Seigneur est là. Je me reconnais impur, tout de suite. Et j'accepte cette mission, « Seigneur, envoie-moi. » C'est le fiat de Marie. Hein. Marie dit la même chose. Hein voilà, comment cela se fera-t-il? Marie parut toute, comme on dit, l'ange entre et elle dit, elle fut toute troublée. Mais je suis toute troublée, mais qui suis-je pour que tu viennes jusqu'à moi? Enfin, vous voyez, l'humilité de Marie, la petitesse de Marie fait qu'elle est troublée. Elle est tellement petite qu'elle est surprise que Dieu vienne jusqu'à elle. Il s'est penché sur son humble servante, c'est-à-dire il s'est penché sur la plus petite, sur celle qui ne mérite rien, qui... Voilà. Bon. Et donc, comme Isaïe, la même réaction, et comme Isaïe, j'accepte cette mission, qu'il me soit fait selon ta parole. Donc voilà, vous voyez, on pourrait prendre aussi Saint-Pierre, voilà, avec cette pêche miraculeuse au chapitre 5 de Saint-Luc, où, suite à la pêche, tout de suite, il est là à dire « Éloigne-moi, toi de moi, Seigneur ». Eh bien, je suis pécheur. À cette vue, Simon-Pierre se jeta aux genoux de Jésus en disant « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur ». Voilà. Vous voyez, la présence du Christ au sein du temple, la prise de conscience, eh bien, de sa présence, nous fait prendre conscience de notre péché et nous fait prendre conscience aussi de la miséricorde. Et c'est pas une culpabilité. Le Seigneur n'est pas là. Au début de la messe, on n'est pas là pour dire « faut se culpabiliser ». On est là au début de la messe pour prendre conscience de la miséricorde. Sur les deux choses. Je prends conscience que Dieu est au milieu de moi et je prends conscience aussi à travers le signe de la croix, qui est le signe de la rédemption, que Dieu me pardonne. Parce que Dieu me pardonne, je découvre que je suis pécheur. Parce que Dieu me pardonne, je découvre que je suis pécheur. Prenons le texte numéro 7. Ça va, c'est tout au fond, hein, toute dernière page, en haut. Texte 7. On ne confesse pas ses péchés dans le but d'exciter des sentiments de culpabilité. Comme l'écrivait le frère Herbert, si nous allons nous confesser, ce n'est pas pour implorer le pardon de Dieu, c'est pour l'en remercier. Nous pardonner nos péchés, pour Dieu, ce n'est pas changer de sentiment à notre égard, c'est changer nos sentiments à son égard. Lui-même ne change pas, ses sentiments ne sont jamais qu'aimants, il est l'amour. Nous commençons donc ce premier acte de l'Eucharistie par une confession de foi. Nous croyons que tous nos péchés sont pardonnés avant même que nous les commettions. Nous croyons que notre Dieu est miséricordieux et aimant et n'a rien d'un juge courroucé. Voilà. Dans la liturgie, dans la vie chrétienne, se reconnaître pécheur, hein, on va parler d'un péché. Dès qu'on met le mot péché, on dit le pardon de Dieu, en fait, préexiste à mon péché. Quand on parle de faute, là, il n'y a pas de pardon. Hein. Le langage de la police, dans la société, ils ne parlent pas de péché, ils vont parler de faute. Vous avez fait une faute. Ben, vous avez fait une faute, il n'y a pas de pardon, vous devez payer. Vous avez roulé à 65, alors il fallait rouler à 50, c'est une faute, il faut payer. Alors, la société est très forte pour culpabiliser les gens, au sens... donc, elle vous dit, je ne sais pas quoi... C'est pas comme ça qu'il faut éduquer ses enfants, c'est ça, voilà, ça c'est pas bien, faut manger moins, faut manger plus. On vous dit tous les problèmes, non? On vous donne pas forcément le remède. On vous dit, la terre elle va pas bien, voilà, bon, je sais pas quoi, on en pollue la terre. Bon, mais d'accord, mais comment on fait maintenant? Il y a un pardon, il y a une rédemption possible, non? Bon. Le Seigneur, lui, dès qu'il dit qu'il y a un truc qui va pas, il te donne le moyen d'en sortir. Il peut se permettre de dire que ça va pas parce qu'il a les moyens. Et c'est pour ça que Jésus, dans l'Évangile, se présente comme le médecin. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Marc chapitre 2. Et puis, il dit cette formule qu'on dit d'ailleurs dans la triple invocation. Hein, Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes. C'est-à-dire, il se présente comme un médecin. Alors, un médecin, c'est très particulier, parce que le médecin, habituellement, c'est celui que vous appelez. Hein? Quand on est malade, on l'appelle. Jésus, il est un médecin qui appelle. Il est venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. Donc, en vous appelant, je vous ai montré que vous étiez pécheurs, mais je me présente comme un médecin. En fait, vous avez une maladie, vous ne le savez pas. Mais je vous révèle que vous êtes malade et je vous donne le remède. C'est ça le but de l'Église, c'est de révéler aux gens leur maladie. Le Christ, il est là, vous voyez, il révèle aux gens qui sont malades. Le Christ, il entre dans la synagogue, puis tout d'un coup, il y a un homme là, « Qui es-tu, Jésus? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Ah, tout d'un coup, il y a un démon qui se révèle dans la synagogue. Ben, on est en train de dire, écoutez, voilà, il y a un petit problème dans cette synagogue, c'est qu'il y a quelqu'un qui est malade là. Il est malade, il est complètement possédé, le gars. Il ne le savait pas. Ben, il ne le savait pas parce que je n'étais pas venu. Et Jésus dit, voilà, je suis venu là, essayez, là, je viens de révéler qu'il était malade, donc je vais lui demander de se taire, tais-toi et sors de lui. Hein, début du chapitre 2 de Saint-Marc. Et aussitôt il sortit de lui, et donc voilà, du coup, on libère la personne. Donc c'est ça, voilà. Hein, et du coup, ça va mieux. Mais quand on va, vous voyez, quand on va... Alors, c'est pas facile. Enfin, quand on va chez un médecin, on est content que le médecin nous dise si on a un cancer ou pas. Bon, pas genre... écoutez, le médecin qui veut pas froisser la personne, écoutez, je vous ai pas dit que vous aviez un cancer, parce que vraiment, je sens que vous l'auriez mal pris, donc je vous ai rien dit du tout. Mais il y a des gens comme ça dans l'Église qui sont pas du tout contents, vous voyez. On leur dit, écoutez, voilà, je vous signale que si vous voulez, je sais pas moi, je prends un exemple, communier correctement, il faut être en état de grâce, il faut s'être confessé avant. Ouais, qu'est-ce que vous nous dites, machin, là, là, attendez, moi je viens comme un médecin, je vous dis, voilà, si vous voulez avoir la grâce, si vous voulez profiter au maximum de l'Eucharistie, hein, vous voulez faire un régime qui marche, bon, la méthode c'est de vous confesser avant, je suis désolé, moi, je me présente comme le médecin, je vous donne le remède, bon, voilà. Ah oui, mais si vous appelez les pécheurs, c'est que vous êtes en train de nous dire qu'on est pécheurs. Bah oui, vous voudriez être des justes. Bon, ben non, on n'est pas justes, on est pécheurs, bon, voilà. Donc voilà, voilà sur la question de la culpabilité, que je trouve assez intéressante. Et donc, vous avez cette deuxième formule que je viens d'évoquer, qui est la formule... où est-ce que j'ai mis cette formule? Donc, en fait, qui raconte l'histoire du salut. Voilà. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. D'abord, le Christ est envoyé. Premier mouvement. Deuxième mouvement. Ô Christ, venu dans le monde, appelez tous les pécheurs. Deuxième formule, voilà. C'est pas l'envoi du Fils, c'est l'œuvre du Fils qui appelle tous les pécheurs, et il les appelle, et il assume leurs péchés en mourant pour lui, pour eux. Ensuite, Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Hein? Ensuite, là, on revient vers le Père, Seigneur, élevé dans la gloire où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Hein? Donc c'est le mouvement d'ascension, hein, qui reprend Philippiens 2, hein. Il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur une croix. Aussi, Dieu l'a-t-il exalté et lui a-t-il donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, on est en train, vous voyez, en train de nous dire, nous sommes pardonnés, à travers cette triple formule, par l'œuvre du salut opérée en Jésus. Cette œuvre du salut, elle est passée par trois étapes, l'envoi du Fils, la rédemption, l'œuvre du Fils, l'exaltation du Fils, le retour du Fils vers le Père. Voilà. C'est tout le mystère, voilà, de mort, de résurrection, de naissance. Hein. C'est pas, il n'y a pas que la croix qui nous sauve, il y a aussi l'incarnation. Voilà. C'est toute la vie du Christ qui est salutaire, salvatrice. Il y a une autre formule aussi. Seigneur, accorde-nous ton pardon, nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. C'est une formule qui est reprise du psaume 122, de Jérémie 14, 20 et du psaume 84, verset 8. 122, Jérémie 14, 20 et 84, verset 8. Voilà, comme des perles qui sont mises les unes à côté des autres. Si nous disons la triple formule, nous n'avons pas besoin de faire le « Je confesse à Dieu ». C'est important pour les liturges. C'est là qu'il y a une des chants parmi nous. si le prêtre dit, démarre par Seigneur Jésus envoyé par le Père, voilà, on fait Kyrie eleison à chaque fois, mais, ah non, c'est plutôt l'inverse. Par exemple, vous faites le Je confesse à Dieu, et une fois que vous avez terminé le Je confesse à Dieu, à ce moment-là, l'animatrice, parce que c'était marqué ça, fait Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié. Mais non, on a déjà fait, on a déjà demandé pardon avec la première formule qui est le Je confesse à Dieu, ne demande pas, voilà, ça fait bis quoi. Par contre, tu gardes Kyrie eleison, Christe eleison, alors qui veut dire quoi? Qui veut dire Seigneur, fais descendre en nous ta grâce. Voilà. Prends pitié de nous. Fais descendre en nous ta grâce. Hein. Eleison. Kyrie. Bon. J'aime bien cette formule. Oui, non, je ne vais pas la lire. Bon. Sur le Kyrie eleison. Bon. Alors. C'est à la fois, c'est vrai qu'il y a trois fois Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Bon. On peut le lier à la Trinité, mais vous voyez, le premier Kyrie, c'est pas le Père, le deuxième Christe, le Fils, et le troisième l'Esprit Saint. Non, non. C'est, le mot Kyrie, ça veut dire Seigneur, c'est aussi bien le Père, le Fils que l'Esprit Saint. Alors j'ai trouvé un petit texte qui nous parle du Kyrie, hein, de l'origine. Bon, vous lirez chez vous, hein, parce que comme ça, voilà. Donc voilà, au départ, c'était pas forcément au début de la messe. Voilà, c'est la tradition grecque. On l'a repris pour nous. Ça a été un peu modifié avec la tradition romaine. Bon, voilà, c'est pas extrêmement important. Il y a un dernier point aussi sur la demande de pardon. On peut avoir aussi l'aspersion. Hein, donc ça c'est important, cette aspersion. Pourquoi? Parce que ça nous rappelle notre baptême, en fait, l'aspersion. Hein. Ce que j'ai dit sur la croix elle a comme sens de nous replonger dans notre baptême. Ce moment où je demande pardon, à la fois il me pardonne des péchés véniels, donc pas des péchés graves. En même temps, c'est toute la messe qui me pardonne. Je prends une oraison de la communion. Hein. Que cette offrande, nous t'en supplions, Seigneur, nous purifie de toutes nos fautes, puisque sur l'autel de la croix, le Christ a enlevé les péchés du monde entier. Hein, donc c'est l'offrande qui nous purifie. À plusieurs reprises, on demande pardon. Donc il ne faut pas forcément centrer le pardon au moment du Je confesse à Dieu, comme s'il y avait quelque chose là, à ce moment-là, qui se réalisait, et pas à d'autres moments de la messe. Le prêtre n'a pas non plus à faire ça devant les fidèles. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, que Dieu Tout-Puissant nous pardonne nos péchés. Alors là, vous voyez, en faisant ça devant la foule, nous pardonne. Non, il te pardonne à toi, prêtre aussi. Donc, il faut que tu te le fasses sur toi, si tu avais un signe de croix à faire. Et il n'y a pas de signe de croix à faire, parce que le signe de croix, on le fait au début de la messe, on le fait à la fin de la messe, il n'y a pas de signe de croix au début. Hein. Donc, ça, c'est, je pense, hérité de l'ancien rite, où il y avait beaucoup de signes de croix un peu tout le temps, mais c'est pas obligé de faire un signe de croix, voilà. Pourquoi? Parce que c'est toute la messe qui va te pardonner. Donc, voilà. Je dis ça, le Père Benoît, c'est son truc de pas faire signe de croix. Donc, mais il a raison, c'est pas... Voilà, bon, faut le savoir. Bon. Alors, cette aspersion, elle est importante. L'aspersion, elle reprend quoi? Donc, en fait, l'histoire du vêtement, vous savez, hein, en Matthieu 22... Le roi, hein. Jésus se remit en route à leur parler en parabole. Il en va du royaume des cieux comme d'un roi qui fit un festin de noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs convier les invités aux noces, mais eux ne voulaient pas venir. De nouveau, il envoya d'autres serviteurs avec ces mots, dites aux invités, on garde ce mot invité, hein. « Voici, j'ai apprêté mon banquet, mes taureaux, mes bêtes grasses ont été égorgés, tout est prêt, venez aux noces !» Mais eux, n'en ayant cure, s'en allèrent à son champ, à son commerce. Vous connaissez l'histoire. Ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre les gens sur les chemins. Ses serviteurs s'en allèrent par les chemins, ramassèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, à la salle de noces. Et la salle de noces fut remplie de convives, d'invités. On prend les bons comme les mauvais. Le roi entra alors pour examiner les convives, et il aperçut là un homme qui ne portait pas la tenue de noces. Mon ami, lui dit-il, comment es-tu entré ici sans avoir une tenue de noces ? L'autre resta muet. C'est ça le problème. Son problème, c'est qu'il est resté muet. Enfin, qu'il aurait dû dire, bah voilà, moi je suis là parce qu'on m'a invité. Oui, on a dit au début de la messe, la Trinité, c'est quoi ? C'est un Dieu qui rentre en relation perpétuellement. Et là, et nous sommes à l'image de la Trinité, donc nous sommes appelés à rentrer en relation. Et il fait comme Adam, il se cache, il ne parle pas. Je me suis caché, j'ai eu peur, je me suis mis dans un coin. Tu es muet, tu ne veux pas rentrer en relation avec moi ? Tu ne veux pas dire, ben voilà, que ben, j'ai pas de vêtement parce que j'en ai pas, mais que tu vas me le donner, ce vêtement. Donc c'est ça, nous, au début de la messe, nous sommes avec notre vêtement. Le vêtement de notre baptême, et ce vêtement a été taché par notre vie. Et donc nous supplions le Seigneur, en disant, Seigneur, mais viens rendre immaculé notre vêtement. Tu ne vas pas tellement le laver, c'est pas ça comment Jésus fait. Il nous donne un nouveau vêtement. D'ailleurs, dans la Genèse, c'est comme ça qu'il fait. Quand Adam a péché, qu'est-ce que fait Dieu ? Il le revêt lui-même. C'est très beau dans la Genèse, il les revêt. C'est Dieu qui habille l'homme. Mais cet habillement, il est provisoire. Le véritable habit, c'est le Christ lui-même. Baptisé en Christ, vous avez revêtu le Christ, dit saint Paul aux Galates. Baptisé en Christ, vous avez revêtu le Christ. Ce vêtement, c'est moi. Et donc, au début de la messe, qu'est-ce que le Père regarde ? Il regarde, eh bien, chacun d'entre nous en essayant de voir son Fils. Et il se dit, mais je ne vois pas très très bien mon Fils, tout ça. Ouh là là ! C'est bien taché tout ça, je ne vois plus l'image. Alors tout de suite, eh bien, il nous asperge d'eau, il nous lave pour que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, eh bien, découvrent dans son Église l'épouse bien-aimée, quelqu'un qui lui ressemble. Cette histoire d'invité au festin de noces, c'est exactement la prière que nous disons à la fin de l'aspersion. Donc vous prenez le texte numéro 8, l'avant-dernier texte. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Vous voyez, la liturgie a pris le mot de festin. Exactement. On a pris les bons comme les mauvais, on a invité tout le monde. Dieu invite tout le monde. Il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, si tu veux participer à l'Eucharistie, il faut que tu aies le vêtement. Les catéchumènes dans le temps, eh bien, étaient renvoyés. C'est-à-dire que c'était avant la parole ou après la parole, je ne sais plus. Après la parole, voilà. Ils entendaient cette catéchèse, ils entendaient les paroles, donc la Bible. Puis après, on leur disait, écoutez, voilà, pour participer au festin des noces, il faut avoir le vêtement. Vous n'avez pas le vêtement. Vous n'êtes pas baptisé. Vous n'avez pas revêtu le Christ, ça ne sert à rien. Bon, on peut entendre les prières, tout ça, mais donc c'est mieux que vous partiez. Et donc il partait, puis je sais pas trop, il devait avoir une catéchèse, une formation, mais c'était assez beau, voilà. On invite tout le monde, et à un moment donné, il y a un tri qui est fait. Bon, nous sommes avec notre vêtement est taché, et donc il est purifié à travers cette aspersion. Voilà, alors je termine par un petit texte qui va résumer l'idée de cette image de Jésus, il faut que je retrouve ce texte. Je voulais vous le mettre et puis je ne vous l'ai pas mis parce que voilà. Je crois que c'est 97. Attendez, bon. Je cherche mon texte. Je voulais faire une fin lyrique. Ah non, 76. Voilà. Alors, c'est un texte. Voilà, de Guillaume de Mantière, qui l'a écrit lui-même, qui était dans une méditation du Magnificat. Vous ne l'avez pas. Caché dans un recoin, j'observe les gens qui entrent dans l'église. La plupart s'y engouffrent avec un air pressé, bien peu s'asseyant en cette demeure de l'Éternel. Quelques-uns pourtant prennent le temps d'esquisser un furtif mouvement de la main qu'avec beaucoup d'imagination on peut assimiler à un signe de croix. des chrétiens sans doute. Mais alors, ils devraient savoir que les signes religieux ostensibles sont autorisés dans l'Église, qui n'est pas soumise à la laïcité. Pourquoi des signes si lilliputiens, à peine perceptibles, et non pas le bel agenouillement droit dont parlait Peggy, ou le beau vêtement de la croix dont on se drape comme d'un manteau? Pourquoi nos fidèles auraient-ils la croix honteuse et non la croix glorieuse? Autrefois, la première leçon de catéchisme ne portait pas sur les dogmes, mais sur la gestuelle du chrétien. « Que dois-je faire le matin à mon réveil ?» demandait-on à l'enfant. Et la réponse fusait « Au réveil, je trace sur moi le signe de la croix. » Avant même d'habiller son corps, on habille son âme de l'ample manteau du salut. Des générations de petits marqués du signe de la croix pouvaient ainsi dire avec l'apôtre « Pour moi que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. » Un jour, une pieuse femme vint visiter l'abbé Pop, agonisant, en lui réclamant un souvenir, une relique, une image de lui. Le bienheureux prêtre décrocha le crucifix au-dessus de son lit et le tendit à la visiteuse en disant « Voici ma photo, priez pour qu'elle soit ressemblante. » Voilà. Amen. Ça avait prévu mon texte final. Mais ça, j'ai vu après coup. Bon. Alors, voilà, donc l'heure est terminée. Est-ce qu'il y a des questions que vous souhaitez bon, c'est volontairement très exhaustif, très... pour que vous n'ayez pas de questions. Mais...
C'est impossible.
Heureusement que c'est impossible de penser à tout ça quand on assiste à la messe. Le mystère de Dieu, c'est comme si, c'est comme une explication d'un texte, une homélie. Ah, mais il y avait ça dans le texte, il y avait tout ça. Bah oui, bah, j'ai fait une homélie de 5 minutes et si j'avais fait une vraie homélie, j'aurais fait 3 heures. Et oui, ça nous déborde. Le mystère de Dieu est une source où plus nous nous abreuvons à cette source, et bien plus elle grandit en nous. La liturgie est très signifiante, elle prend notre corps, elle prend l'histoire du salut, elle prend tout, elle résume tout. On peut faire toute une catéchèse rien qu'avec la messe, là je vous décris la Trinité, tout, enfin c'est extraordinaire. Bon, donc votre mot final est un cri d'émerveillement, Magnificat, c'est super. Donc à bientôt, je ne sais plus, la prochaine date c'est marqué, 12 décembre, bon, je buzz. Voilà. Voilà.